Actualité, information. Coup de gueule. Le zapping proposé par Chanson Rouge, Mosaïque Radio.
Lors du premier débat, votre passage à la télé a été plutôt remarqué. Sur le fond, vos arguments sont apparus rodés. Et sur la forme, vos attaques se sont révélées redoutablement ciselées. Alors serez-vous la révélation de ces élections européennes? Ce serait tout de même un peu vite oublié que vous faites de la politique depuis maintenant de longues années. Depuis 22 ans, précisément, quand vous adhérez au Parti communiste, oui, vous avez 17 ans. À 28, vous êtes élu conseiller de Paris, époque Bertrand Delanoë. À 34, lors du mandat suivant, Anne Hidalgo, faites-vous ce que vous êtes encore aujourd'hui, son adjointe au logement, sans oublier qu'à 3 reprises déjà, vous avez été candidat, Yann Brossat, à des élections législatives. Donc les batailles électorales, les batailles politiques ne vous effraient absolument pas. Et vous aimez peut-être plus encore la bataille idéologique. Embêter les bourgeois, en suggérant notamment l'installation à Paris d'un camp rom dans le 16e arrondissement.
On a besoin que la solidarité soit équitablement partagée à l'échelle des territoires, et donc oui, notamment dans le 16e arrondissement, qui est le plus grand arrondissement de Paris, et le deuxième moins densément peuplé.
Ce vœu que vous avez exprimé d'installer un camp rom remonte au 15 octobre 2013. Depuis, la majorité parisienne à laquelle vous appartenez a imposé un centre de SDF et plus récemment un centre pour migrants toujours dans ce 16e arrondissement. En réalité, ces combats, ce sont ceux de toute la famille Brossat. Vos parents sont des intellectuels, des universitaires qui ont toujours milité à la Ligue communiste révolutionnaire, la LCR. Et vous avez suivi le même chemin. Vous êtes un normalien, agrégé de lettres, qui avait adhéré à la jeunesse communiste à 13 ans seulement quand vous étiez à peine adolescent. Avec eux, vous partagez probablement, Yann Brossat, la même radicalité, mais vous ne rechignez pas, vous éventuellement, à infléchir votre tactique si c'est pour réussir une bonne opération politique.
Réaction, Yann Brossat.
Bon, j'entends ce que vous dites, oui, je suis engagé depuis longtemps, je suis un garçon fidèle et loyal, j'ai adhéré au Parti communiste
depuis
effectivement un peu plus de 20 ans. C'est pas une question de tactique politique. Moi, je fais de la politique parce que j'ai envie de changer la vie. Et c'est peut-être la différence par rapport à mes parents qui ont eu un engagement finalement très théorique. Moi, j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis. Et ce qui me rend heureux, c'est quand je croise une famille qui me dit, grâce à votre politique en matière de logement, mon môme, il a une chambre pour faire ses devoirs et il peut jouer. Moi, c'est ça qui me rend heureux et c'est ça qui me donne envie de me battre.
Direct,
je suis alter européen. Cette Europe-là ne me va pas et je pense qu'il nous faut aujourd'hui changer d'Europe. Mais je le pense d'autant plus qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, d'ailleurs, moi je fais partie d'une génération pour laquelle l'Union européenne était une espèce d'évidence. Aujourd'hui, l'Union européenne traverse une crise existentielle comme elle n'en a jamais connue. Donc tout le monde a aujourd'hui conscience que soit l'Europe change profondément, soit l'Europe mourra. Et donc la question qui se pose à notre génération, c'est bien comment nous faisons en sorte que cette Europe-là soit autre chose qu'une machine à fabriquer de la régression sociale. Vous me dites... souverainiste. Je ne me définirai pas comme ça. En revanche, je suis attaché à la souveraineté populaire. Je vais vous donner un exemple. La France, c'est une nation qui s'est bâtie singulièrement depuis 45 en développant des services publics, un secteur public puissant, des entreprises publiques qui disposaient d'un monopole dans un certain nombre de secteurs. Dans le domaine des transports, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des télécoms. Là-dessus, l'Union européenne est intervenue en nous disant « il faut mettre en concurrence, il faut libéraliser ». Est-ce que ça a été positif ? Est-ce que ça a marché ? Pas du tout. Dans le secteur du fret ferroviaire, par exemple, depuis la libéralisation, il y a deux fois moins de marchandises qui circulent par le train en France. Donc ce que je dis, c'est que l'Union européenne doit accepter qu'en son sein, il puisse y avoir des modèles économiques différents. Laissez-nous respirer. Nous, les Français, nous avons mis en place des services publics. Ça donnait satisfaction. Ça marchait bien. Ben, laissez-nous le faire. Que l'Europe était au départ une belle idée. On nous a dit c'est la paix, c'est la prospérité, c'est la démocratie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas la paix, on a la guerre économique, on n'a pas la prospérité, on a 87 millions de pauvres, on n'a pas la démocratie, on a le pouvoir des lobbies. Et donc je crois qu'aujourd'hui il est temps de changer profondément le cours de l'Union européenne. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui si l'Europe ne répond pas à ses promesses de départ, c'est parce qu'elle est malade du libéralisme. Et donc il nous faut enfin arrimer l'Union européenne à un projet qui soit un projet de progrès social. Je pense que c'est ce qui peut sauver l'Europe.
D'abord, c'est trop facile de taper sur l'Allemagne. Aujourd'hui, Emmanuel Macron
Et sur le plan économique, sur les mêmes positions que Madame Merkel, ce sont des libéraux. Et en réalité, son programme, c'est le même que celui de Monsieur Juncker.
Parle de votre
c'est
programme,
le même que celui de Madame Merkel. Moi, ce que je pense profondément.
Sortir des traités européens.
Oui, bien sûr, je dis qu'il faut s'affranchir des traités européens. Je constate d'ailleurs qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne, comme les Portugais, qui ont maintenant un gouvernement de gauche, ont décidé, contre les recommandations de l'Union européenne, d'augmenter les salaires, d'augmenter les minima sociaux, et leur économie s'en porte mieux. La règle des 3%, bien sûr, c'est une absurdité totale.
D'ailleurs, qui a été votée par référendum en France. Il faut rappeler que ça date du référendum. Un homme de Maastricht, c'est que ça a été adopté donc par une majorité des électeurs
français. Une petite majorité, et à l'époque d'ailleurs, les communistes ont eu raison de s'y opposer. Oui, mais enfin, la deuxième fois qu'on a posé la question aux Français au moment du traité constitutionnel européen, à une majorité plus forte encore, ils s'y sont opposés et ils ont dit qu'ils en avaient ras-le-bol de cette Europe libérale. Donc ce que je dis, oui, c'est qu'il faut s'affranchir de ces règles absurde. Ben oui, mais enfin, le vote de 2005.
C'est exactement ce que vous reprochez justement à ceux qui vous disent le vote de 2005 s'est décidé à quelques mètres.
Il y a eu un vote en 2012 aussi. Bien, en 2005, il y a eu un vote et ce vote a été massif.
Ne soyez pas de mauvaise foi, Yann Brossard.
Je ne suis jamais de mauvaise foi.
Ah, là, vous l'êtes particulièrement.
Ce qui est honteux, c'est qu'on n'ait pas tenu compte du vote des Français en 2005 et que Nicolas Sarkozy ait validé ce traité par la voie parlementaire. Non, je dis qu'en 1992, ils avaient tranché. Leur vote a d'ailleurs été respecté. Non, mais attendez, ce qui est fou, c'est que quand ils disent qu'ils correspondent à la doxa libérale, on tient compte de leur avis, et quand ils disent non, on ne tient plus compte de leur avis. Donc c'est deux poids, deux mesures. C'est quand même une drôle de conception de la démocratie. J'en finis. Oui, il faut s'affranchir de cette règle des 3%. D'ailleurs, aucun économiste n'est capable de nous dire pourquoi c'est 3%, pourquoi c'est pas 4, pourquoi c'est pas 5. Et d'ailleurs, je vois que même des gens qui ne sont pas de grands révolutionnaires comme Nicolas Hulot, au moment où il est sorti du gouvernement, a dit il faut sortir du calcul des 3% les dépenses qui visent à réaliser des investissements pour la transition énergétique. Donc oui, je dis que ce serait salvateur de se sortir de ces règles absurdes.
François. Il y a un volet écologique important aussi dans votre programme. Et puis il y a une petite histoire, si j'ose dire. Vous avez dénoncé des personnalités qui prennent l'avion et qui envoient des messages comme quoi il faut respecter l'environnement. Et puis vous-même, des internautes ont décelé que vous-même, vous aviez pris l'avion pour prendre des vacances. Donc on a dit, finalement, c'est deux poids, deux mesures. Alors quelle est la réalité? Vous dites, il ne faut plus prendre l'avion ou vous continuez à le prendre vous-même?
Jeff Vitaber, je l'avoue. J'ai déjà pris l'avion dans ma vie. Et lorsque j'ai rencontré le maire de New York pour échanger sur l'encadrement des loyers, je n'y suis pas allé à la nage.
Ceux qui le prennent.
Simplement, je dirais deux choses. D'abord, oui, je trouve honteux que lorsqu'on parle d'écologie, on pointe du doigt l'ouvrier qui utilise son vieux diesel et dans le même temps, on ne taxe pas le kérosène. C'est absurde parce qu'on le sait très bien, le kérosène est beaucoup plus polluant que ne l'est le vieux diesel utilisé par l'ouvrier qui se rend en voiture à son usine. Donc deux choses. Il y a des trajets qui sont courts et qui peuvent être effectués en train. Paris-Lyon en avion, c'est débile. Ça prend plus de temps, c'est plus polluant. Ces trajets-là devraient être interdit dès lors qu'on peut les réaliser en train en moins de 2 heures. D'ailleurs, j'ai noté que le Parlement des Pays-Bas a interdit les trajets entre Amsterdam et Bruxelles. Ça a été fait par les Pays-Bas. Ça devrait pouvoir être fait en France.
Les parlementaires européens devraient pouvoir interdire un certain nombre de liaisons aériennes au sein même des pays de l'Union.
Qui peuvent être réalisées en moins de 2 heures en train. Et puis deuxièmement, il y a des trajets qui sont plus longs. Paris-New York, c'est effectivement plus long. Sur ces trajets-là, je pense effectivement qu'il faudrait taxer le kérosène comme de nombreuses personnes l'ont proposé.
Donc faire augmenter les billets d'avion de façon aussi importante et donc priver certaines personnes de prendre l'avion.
On n'est pas forcé d'en faire exploser le prix. Simplement, ce que je vous dis, c'est que je préfère qu'on finance la transition énergétique en taxant l'avion qu'en taxant le vieux diesel de l'ouvrier.
Ce n'est pas de la compétence du Parlement européen, mais expliquez-nous pourquoi sortir de l'OTAN.
Parce que je vois bien qu'aujourd'hui, on nous raconte une petite musique, d'ailleurs Emmanuel Macron nous raconte cette petite musique, qui consiste à nous dire on va créer une défense européenne qui nous permettra de gagner une forme d'autonomie par rapport aux États-Unis. Je dis que c'est un mensonge dès lors que nous restons dans le cadre de l'OTAN. L'OTAN, ça date de la guerre froide. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre froide. Donc je ne vois pas pourquoi nous resterions accrochés à l'OTAN.
Mais alors, ça voilà la raison pour laquelle je le dis. Pour une armée européenne extrêmement puissante, donc mettre des milliards d'euros dans la construction.
Pas du tout. Je ne dis pas du tout ça. Je dis simplement qu'il y a une arnaque dans l'argumentation qu'on nous défend. Non, moi je suis favorable à l'indépendance de la France, à la sortie du commandement intégré de l'OTAN, comme l'avait fait d'ailleurs le général de Gaulle en son temps, et je suis favorable à une baisse des dépenses militaires. D'ailleurs,
puisque vous parlez du général de Gaulle, c'est assez curieux de voir un communiste se réclamer du général de Gaulle.
Nous avons gouverné le pays ensemble et nous avons créé la sécurité sociale.
Et vous avez, avec le général de Gaulle, enfin les communistes à l'époque, vous êtes opposé à la création d'une Europe de la défense en 1954. Donc vous êtes toujours.
J'y suis toujours opposé. D'accord. Et d'ailleurs, je constate une chose extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne nous demande à tous les pays d'Europe de consacrer 2% de notre produit intérieur brut aux dépenses militaires. Ça, c'est quand même formidable. Le seul objectif de dépense que nous fixe l'Union européenne, ce sont des dépenses militaires. Ils nous demandent de rogner sur nos dépenses de santé, de rogner sur nos dépenses d'éducation, mais alors en matière militaire, il faut y consacrer 2% de notre PIB.
Bah, excusez-moi, qu'il n'y a pas de danger sur la scène internationale,
excusez-moi,
sur la scène
ça
de
ne
la
me fait pas rêver,
par exemple.
Cette course aux armements et cette relance
mais
de la course aux armements,
pas tous en même temps.
Cette course aux armements, ça n'est pas le projet de société que je défends pour
comme
l'Europe,
gaulliste.
Et je pense au contraire, comme communiste, et je pense au contraire que nous devons nous battre pour la paix, et on ne construit pas la paix en relançant la course aux armements. Alors